Marcel sur RFI.
RFI, 7h30, à Paris, 6h30 en temps universel. Et le journal avec Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Et on débutera ce journal avec les enjeux de la rencontre de Luanda, annoncée demain entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Les présidents de RDC et du Rwanda, ils discuteront ensemble de la paix dans l'est de la RDC. Rendez-vous sous l'égide donc de l'Angola. La colère de l'AMET ensuite, l'association des médias en ligne du Tchad, en grève depuis le début de semaine pour contester une décision de la haute autorité des médias, mais chacun campe pour l'heure sur ses positions, vous entendrez les deux parties. Des accusations réitérées contre les Émirats Arabes Unis qui livreraient des équipements aux paramilitaires soudanais des FSR via le Tchad, accusation de l'agence Reuters après enquête. Les candidats à la commission de l'Union africaine, ils sont trois et ils ont présenté leur dossier, leur profil hier au siège de l'institution à Addis Abeba. Un avant-goût de notre nouvelle émission du week-end, un jour au village avec Penaï Traoré. Elle se penche aujourd'hui sur une étrange bactérie encore non identifiée qui s'attaque aux cultures de manioc en RDC. Et puis, l'actu sport également au programme, on parlera du Rwanda qui souhaite avoir son Grand Prix de Formule 1. La rencontre débouchera-t-elle demain sur l'annonce d'un accord de paix ou sur l'annonce d'un accord imminent dans l'est de la RDC? Le président angolais, en tout cas, lui veut y croire. João Lourenço l'a affirmé lors d'un déplacement cette semaine en Afrique du Sud. Lui qui mène la médiation entre la RDC et le Rwanda. Ce processus dit de Luanda, qui réunira demain les présidents des deux pays, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. 10 mois après leur dernière entrevue, le gouvernement congolais salue d'ailleurs les efforts déployés par la diplomatie angolaise, mais il n'oublie pas pour autant ses attentes précises à l'approche de ce rendez-vous. C'est ce que nous explique ce matin Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement congolais.
Le président de la République a rendu hommage à son homologue angolais parce que la question, ce n'est pas simplement une simple question de rencontre, mais c'est plus ou moins l'aboutissement du processus des discussions qui ont commencé, je rappelle, juillet 2022. Et donc là, dimanche, nous irons à Luanda dans l'idée de venir non pas seulement signer un accord, d'après ce qui est prévu, mais aussi de nous assurer que la paix revienne dans la partie est du pays, que les Rwandais sortent leurs militaires de notre territoire et que les populations commencent progressivement à revenir dans leur milieu d'origine. C'est cela l'enjeu principal de toutes ces discussions.
Voilà les mots de Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement congolais, au micro de Pauline Azidi, à la veille de ce rendez-vous de Luanda, lors duquel se retrouveront donc Félix Tshisekedi et Paul Kagame normalement. Un trou noir informationnel, c'est ce que dénonce l'association des médias en ligne du Tchad, alors que la campagne électorale pour les législatives et les locales du 29 décembre bat son plein dans le pays. L'AMET est engagée depuis le début de semaine dans un mouvement de grève pour contester une décision de l'autorité des médias. Cette dernière a interdit aux médias en ligne de produire des contenus audiovisuels sans autorisation préalable. Et tant que l'AMA ne reviendra pas sur cette décision, en face, l'AMET campera elle aussi sur ses positions, nous dit ce matin son président, Bello Bakary.
On est en pleine campagne électorale législative. C'est un événement important pour les Tchadiens. Mais où sont les informations? Qu'est-ce qui se passe? Mais la presse en ligne est en grève. Et il y a quelques jours, on a élevé le président de la République au rang du maréchal sur le trou noir. Il n'y avait aucune visibilité. C'est pour la faute de la haute autorité des médias publics. Nous continuons notre grève tant qu'on n'est pas rétabli dans nos droits. Tant que la Hama n'annule pas ou ne retire pas sa décision. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est unanime. On ira jusqu'au bout. Et aujourd'hui, le Tchad est dans un trou noir. C'est par la faute de la haute autorité des médias qui, chaque jour, au lieu de se promouvoir les journalistes, les médias, au lieu de réfléchir sur leur modèle économique, parce qu'après tout, c'est des entreprises. La AMA ne fait que taper sur la presse en ligne.
Voilà la position de Bello Bakary, le président de l'association des médias en ligne du Tchad. Mais de son côté, le président de l'autorité des médias persiste et signe. C'est la loi tchadienne, dit-il, qui interdit aux médias en ligne de produire des contenus audiovisuels. Abderrahmane Barka affirme par ailleurs qu'une grande partie des titres concernés ont profité trop longtemps de la tolérance de la AMA sur ce point, avec ce qu'il appelle des contenus plus litigieux. Je vous propose de l'écouter.
En dehors du fait que cela constitue une infraction, les contenus qu'ils produisent, ce ne sont pas des productions réelles qui sont datées et qui sont régulières. On donne la parole à tel, par exemple, pour s'exprimer contre une décision de justice. On donne à tel pour s'attaquer à tel autre. On n'équilibre pas l'information. On donne la possibilité à des attaques entre communautés, etc., alors qu'on n'a pas le droit même de diffuser ces contenus. À l'approche, par exemple, des élections, la situation devenait plus grave parce qu'il y en a qui ont affiché même des prix pour les interviews, pour les portraits. Or, la publicité politique est interdite, en particulier pendant les campagnes électorales. Nous avons interdit également les émissions interactives parce que les réalisations ne remplissent pas les conditions techniques et professionnelles.
Voilà la réaction d'Abderrahmane Barka. Vous l'avez compris, le président de la Haute Autorité des médias au Tchad, il était contacté par Esdras Dikoumana. Des accusations réitérées contre les Émirats Arabes Unis pour leur implication dans la guerre au Soudan. Des accusations qui n'émanent pas cette fois de l'armée soudanaise, mais d'une agence de presse reconnue, l'agence Reuters, qui a mené une enquête et qui affirme que les Émirats fournissent bel et bien des équipements au camp du général Hemeti. En l'occurrence, plusieurs dizaines d'avions ayant atterri ces derniers mois à Amjaras au Tchad. Un aéroport Alexandra Branjon, situé à quelques 50 km de la frontière soudanaise, est souvent cité comme plaque tournante.
Selon Reuters, au moins 86 avions provenant des Émirats Arabes Unis ont atterri à Amjaras depuis le début de la guerre au Soudan, il y a 18 mois. L'agence de presse s'appuie sur l'analyse de données de vol ainsi que d'images satellites. Les Nations Unies soupçonnent les Émirats Arabes Unis d'utiliser cet aéroport d'Amjaras pour acheminer des armes à l'un des belligérants au Soudan, les forces de soutien rapide du général Hemeti. Abu Dhabi a toujours nié ces accusations et affirme utiliser cet aéroport dans le nord du Tchad pour livrer de l'aide humanitaire à son hôpital de campagne dans la région. Rien ne permet de dire avec certitude quelle était la cargaison de ces 86 vols recensés par Reuters, principalement des avions cargo. Mais selon l'agence de presse, la moitié des vols ont été opérés par 4 compagnies aériennes basées au Kyrgyzstan et en Ukraine, déjà accusées par l'ONU de transport d'armes vers la Libye en violation d'un embargo de l'ONU. Ces nouvelles informations sont publiées alors que l'armée soudanaise reproche au Tchad de laisser transiter sur son territoire des armes à destination des paramilitaires soudanais, ce que N'Djamena a toujours démenti.
Alexandra Branjon. Et dans cette guerre soudanaise qui dure depuis avril 2023, les paramilitaires des forces de soutien rapide sont accusés d'avoir attaqué hier le principal hôpital encore en activité de la ville d'El Fasher, la capitale de l'état du Darfour Nord, faisant au moins 9 morts et 20 blessés selon le ministre local de la Santé. Le Soudan, l'est du pays, où plus des 2/3 des familles qui sont déplacées par ce conflit ne peuvent pas se procurer suffisamment de nourriture. Triste constat du NRC, le Conseil norvégien pour les réfugiés. Et pendant ce temps, une affaire mise en délibéré hier à La Haye devant la Cour pénale internationale. Elle concerne Ali Mohamed Ali Abdelrahman, un chef de milice Janjaweed, accusé par le procureur de la CPI de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Des faits qui auraient été commis lors de la crise du Darfour au début des années 2000. Rappelons-le, ces milices Janjaweed sont à nouveau pointées du doigt aujourd'hui pour leur implication aux côtés du général Hemeti également dans cette guerre soudanaise. À Madagascar, le premier cyclone tropical intense de la saison, nommé Kido, il a transité à 70 km des côtes nord hier en fin de journée. Près de 20 000 personnes pourraient avoir été victimes d'inondations ou contraintes de se déplacer selon les autorités. Ce samedi, le cyclone poursuit sa trajectoire en direction de l'archipel des Comores. À Mayotte, des rafales de vent jusqu'à 200 km/h sont attendues. La population sur place est confinée. Il brigue la présidence de la Commission de l'Union africaine. Au nombre de 3, les candidats se sont présentés hier au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, le Kenyan Raila Odinga et le Malgache Richard Randria Mandrat. Le vote pour le poste est prévu en février 2025 et ce rendez-vous hier à l'occasion du Mjadala africain, qui signifie « débat africain » en swahili, eh bien il résonnait un peu comme un grand lancement de campagne. Wely Diallo a suivi tout ça pour nous.
Pour Mahmoud Ali Youssouf, c'est sur la base de son projet sécuritaire que l'on devrait l'élire. Le chef de la diplomatie djiboutienne, ministre des Affaires étrangères depuis plus de 20 ans, a annoncé vouloir renforcer le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, et plus particulièrement le système continental d'alerte rapide. Il a aussi annoncé vouloir diversifier les financements de l'UA, un projet économique partagé par le candidat malgache, Richard Andriamandrat, a axé son discours sur l'économie africaine en se réjouissant des financements de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Quant à Raila Odinga, le candidat kényan a mis en avant son expérience et sa connaissance du continent et de l'UA, puisqu'il en a été le haut représentant pour le développement des infrastructures en Afrique. Le candidat a affirmé vouloir développer le secteur de l'éducation, de la santé et du marché intérieur africain.
Walid Diallo, vous en mangez probablement beaucoup, c'est certain en tout cas si vous vivez en RDC, car là-bas, le manioc est consommé par 8 ménages sur 10 quotidiennement. La RDC est d'ailleurs le troisième producteur mondial de manioc, production estimée à 15 millions de tonnes chaque année. Mais des maladies frappent les cultures, la maladie des nécroses racinaires notamment, apparue dans les années 2000. L'agent pathogène qui en est à l'origine n'a toujours pas été identifié, que Penaï Traoré.
Les symptômes apparaissent généralement quand les plantes atteignent 12 mois, c'est-à-dire à leur maturation. L'agriculteur s'en rend compte seulement au moment de la récolte. C'est ce qui est arrivé à Victor Nzonzi Mbembe, agriculteur dans le village de Luzolo, dans la province du Congo central.
Au niveau du tubercule des dents, vous avez des filons qui se forment d'une matière gliâtre, jaunâtre, très dure. C'est pratiquement tout le tubercule qui moisissait, qui pourrissait. Et là, ça c'était devenu vraiment catastrophique. Donc, le manioc, c'est devenu une culture à problème si vraiment on ne fait pas attention.
Les chercheurs n'ont pas réussi jusque-là à identifier la bactérie à l'origine de cette maladie, mais une avancée a quand même été réalisée en 2019 grâce aux travaux de l'agronome congolais Tony Bakelana. Il a réussi à démontrer que les nécroses racinaires du manioc n'étaient pas causées par un virus comme il le pensait au départ.
Dans le cas de ma thèse, je me suis intéressé à ce problème. Et finalement, on a conclu qu'on avait affaire à une bactérie de champignons. Les conséquences sont graves du fait que quand les paysans perdent les récoltes, automatiquement, ils perdent leurs moyens de survie. Dans beaucoup de zones, les gens ont abandonné la culture, beaucoup.
En attendant l'identification de l'agent pathogène, l'INERA, l'Institut de l'Environnement et des Recherches Agricoles en RDC, a introduit d'autres variétés de manioc qui résistent mieux à la bactérie. Mais tous les paysans n'ont pas encore accès à ces variétés.
Penaï Traoré, cette maladie du manioc en RDC, ce sera justement le sujet de votre émission Un jour au village, à partir de 13h10 en temps universel. Le bruit se faisait de plus en plus pressant, comme une voiture de course approchant d'un virage à grande allure. Et cela se confirme donc, le Rwanda veut son Grand Prix de Formule 1. Kigali a accueilli justement hier l'Assemblée Générale et la cérémonie de remise des prix de la FIA, la Fédération Internationale Automobile. Et le président Kagame en a profité pour annoncer la candidature, Lucie Mouillot.
C'est un premier déplacement à Kigali pour de nombreux champions de Formule 1, mais peut-être pas le dernier, se réjouit Charles Leclerc, pilote pour l'écurie Ferrari.
Ce serait très bien de pouvoir courir ici. C'est un long processus, ce n'est que le début, mais c'est très excitant de voir que le Rwanda essaye d'accueillir une course de F1 ici. Il y a beaucoup de fans en Afrique et ce serait important d'y avoir une course.
Le retour d'un Grand Prix sur le continent est discuté depuis de nombreuses années. La volonté assumée de Kigali d'accueillir l'organisation de la Formule 1 est une opportunité, selon Mohamed Ben Soulayem, président de la FIA, la Fédération internationale automobile.
C'est très bien, et avec la Formule 1, qui sait ? Je pense que c'est possible. Il faut commencer par une candidature. Le Rwanda a tout notre soutien parce que ça envoie un message à l'Afrique. Comment pouvons-nous avoir un championnat du monde de F1 sans l'Afrique ? Nous devons l'avoir parmi nous.
We have to have Africa. Le continent est boudé par la F1 depuis plus de 30 ans et le dernier Grand Prix en Afrique du Sud, également candidat pour accueillir de nouveau sur son sol la plus prestigieuse des compétitions automobiles. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Kigali, où il est 8h43, votre matinale continue.